Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous et à toutes.
Aujourd'hui, Asialogisme est au vert, Didier. On a un invité, chers auditrices et auditeurs, un spécialiste des ambiances zen, un passionné de bonsaï. Bonjour Gilles Junier.
Bonjour.
Bienvenue dans Asialogie, Gilles. Et en deuxième partie d'émission, Didier, tu nous parles d'un manga et d'une série de France TV. Série qui cartonne sur l'art du vin et les vignobles.
Voilà, ça devrait plaire à un plus grand monde.
Les gouttes de Dieu.
Exactement.
Bon, tu nous as prévu un joli bed, Relaxing Japanese Music Bonsai Tree.
Ça, c'est ça.
Ça, c'est pour Gilles.
Voilà.
Bon, Gilles, alors, pouvez-vous nous parler de ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans l'art du bonsaï? Qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer la culture de ces arbres nains, on peut dire ça?
Oui, on peut dire ça. En fait, comme beaucoup de personnes, l'attrait du végétal, tout d'abord, et puis ce côté des petits arbres. On commence un petit peu par prendre des arbres dans son jardin, parce que je suis issu quand même de... Je suis un rural.
Un rural.
Un rural, pas un citadin, même si on peut trouver des petits arbres en ville. Mais donc des petits arbres...
Oui, vous vivez au vert.
Oui, je vis au vert, c'est ça. C'est mieux pour faire du bonsaï que dans un appartement. On y reviendra tout à l'heure.
D'accord.
Donc effectivement, des petits arbres, donc j'ai commencé comme tout le monde, des petits arbres qui font quelques centimètres, les mettre dans des pots.
N'importe quel petit arbre.
N'importe quel petit arbre pour commencer au départ.
C'est d'accord.
Un petit peu l'erreur. Et puis j'en avais 1, 2, 3, 5, 10. Et puis j'ai commencé comme ça.
D'accord. Donc des petits arbres, vous avez commencé par quelle variété?
Alors des arbres qu'on prélève dans les jardins, quand on a un jardin, ça peut être du cotonnet aster, ça peut être des piracanta, des érables.
Donc des arbustes même?
Oui, des arbustes, non, mais des petits plants, des jeunes plants qui poussent dans les terrains, quand quelquefois c'est la tondeuse qui passe dessus, on ne les voit pas.
D'accord.
Mais ces petits arbres, ils font quelques centimètres, et puis on les met dans un pot en espérant qu'on va les garder, qu'ils vont grossir rapidement, et qu'on va voir un petit peu ce qu'on voit dans les livres.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine des bonsaïs et comment cette pratique, elle a évolué? Ça date de quand? Quelles sont les premières traces des bonsaïs? Enfin, racontez-nous un petit peu tout ça, l'historique en fait.
Alors, contrairement à ce qu'on pense, le bonsaï ne vient pas du Japon. Enfin, il n'a pas été, été inventé au Japon. On retrouve les premières traces de bonsaï, alors plutôt d'arbres en pot, au niveau d'Égypte. On peut dire 200 ans également avant Jésus-Christ.
En Égypte.
Oui, en Égypte, on a trouvé des arbres dans des pots. Alors, est-ce que c'était des bonsaïs? On est un peu loin du bonsaï, parce que le bonsaï, c'est plus compliqué que ça. Et après, ça, on a retrouvé surtout en Chine. Et en fait, c'est les Japonais qui ont volé un petit peu l'idée aux Chinois. Donc, l'origine du bonsaï, c'est surtout la Chine. Et après, les Japonais s'en sont
emparés
et les ont codifiés. Il existe toujours d'ailleurs du bonsaï en Chine, comme du bonsaï au Vietnam, dans toute l'Asie en général, mais ils sont beaucoup moins codifiés. Le Japon, comme tout ce qui est au Japon, est très carré, très codifié.
Oui, c'est la société confucianiste maximum, on peut dire ça.
Et après, donc, c'est arrivé seulement en Europe que dans les années 1900.
Ah oui, c'est très récent.
Très, très récent.
Ah oui.
Très récent.
Au moment de, grosso modo, l'exposition universelle.
Ah oui, d'accord. Oui, c'était l'orientalisme, petit peu à cette époque-là. Le goût de...
Oui.
Et lié au colonialisme, bien sûr.
Voilà. Et ainsi de suite. Et en fait, c'était les premières armes, mais vraiment, la vulgarisation en France, en Europe, c'est dans les années 70.
D'accord.
Avec quelqu'un.
Oui, donc c'est très récent.
Très récent. Avec quelqu'un qui est connu de tous les anciens qui font du bonsaï, qui s'appelait Rémi Sanson, qui existe toujours, qui avait une collection et qui lui cultivait. C'est lui qui a vulgarisé avec des livres, parce qu'il n'y avait pas Internet.
Oui, bien sûr.
On n'avait pas les téléphones. Donc, on a sorti les premiers livres et tous ceux qui voulaient faire du bonsaï, on a tous acheté ces livres-là et on voulait faire pareil.
Donc, Rémi Sanson, qui est toujours vivant.
Oui,
donc,
toujours vivant.
Il doit être âgé quand même.
Bon, il est à la retraite depuis une petite dizaine d'années maintenant. Il a sa collection qui est.
Il a
commencé à 20 ans, il a dû faire 40 ans de bonsaï.
D'accord.
Et pour ceux que ça intéresse, sa collection, elle est disponible toujours en la Vallée aux Loups, à Châtenay-Malabry.
C'est près de Paris, ça.
C'est près de Paris, région parisienne.
Oui, donc Rémi Sanson, Châtenay-Malabry, Vallée aux Loups.
La Vallée aux Loups, c'est
un parc.
C'est le parc aux loups.
Première collection de bonsaï française.
La Vallée aux Loups, Château-Malabry, oui, c'est là, et elle a été rachetée, je crois, par le département, sa collection.
D'accord, donc on peut dire que les bonsaïs, en résumé, existent depuis à peu près 4000 ans, oui. Si on remonte à l'Égypte, oui. Que c'est les Chinois qui s'en oui. sont, qui ont récupéré oui. Cette, oui. Cette culture particulière et que les Japonais l'ont peut-être perfectionné.
Oui.
On peut dire du moins codifié, comme vous aviez dit, Gilles. D'accord. Alors, quelles sont les philosophies et les croyances qui sous-tendent l'art du bonsaï? Parce que bah, j'imagine qu'on ne fait pas l'art du bonsaï comme ça, à part Rémi Samson, qui peut-être l'a fait par goût pour la culture asiatique dans les années 70. Mais qu'est-ce qui, sur quelle philosophie et croyances on se base pour faire un bonsaï? Parce que j'imagine qu'il y a quand même justement les codes. C'est quoi?
Alors c'est
la philosophie et les codes.
C'est effectivement, comme vous disiez, la difficulté pour nous, Européens, c'est que nous n'avons pas cette culture philosophique
oui.
Japonaise. Donc on fait du...
Oui,
on fait,
oriental.
Oriental, à moins d'être... ça se transmet de génération en génération. Nous n'avons pas cette culture. On essaye de tendre vers. C'est pour ça que tous les gens qui font du bonsaï sont aussi très intéressés par la culture japonaise et la culture orientale. Les origines un petit peu philosophiques, c'est un peu le taoïsme.
D'accord.
Donc c'est tout ce qui est paix, vide... Silence.
Oui. On a oui, également, les esprits de la nature.
Voilà. On a également le bouddhisme. Là, c'est plutôt tout ce qui était la souffrance, hein, un petit peu orienté vers la mort. Donc, les arbres, quelquefois, on a l'impression qu'ils sont en fin de vie.
Oui,
hein,
c'est
avec
vrai.
Avec des bois morts.
Ils ont l'air très vieux.
Ils ont l'air très vieux. Donc, on est un peu dans cet esprit de bouddhisme. Et puis, les Japonais, avec le shintoïsme, on fait une sorte de synthèse de tout ça, mais vraiment dans une sorte de magnification, de magnifier la nature.
D'accord.
Il y a un grand respect de l'arbre qui se transmet de génération en génération. Et les Japonais ont ce même respect pour le bonsaï qu'ils ont d'ailleurs pour certains arbres qui sont des arbres sacrés.
Oui, il y a des arbres sacrés. Didier, tu nous avais parlé de ça, hein, des arbres remarquables du Japon.
Ça.
Qui portent des noms, qu'on leur corde autour de leur tronc, tout ça.
Exactement.
Il y a toute une culture de l'arbre et des esprits des arbres, les kami.
Exactement, tout à fait.
Alors, quels sont les types de bonsaï les plus courants, Gilles, pour vous, aujourd'hui, en France?
Alors, il y a deux types, il y a les arbres du Japon et les arbres français.
D'accord.
Au Japon, c'est des essences surtout japonaises, mais qu'on peut retrouver en France un petit peu. Au Japon, c'est les érables. Les herbes japonais, hein, qu'on a tous dans nos, connaissent tous avoir dans nos jardins, qui ont des magnifiques couleurs.
Dans ton rêve.
En voilà, petit ou en grand, je prends.
Dans ton rêve.
Donc
les couleurs sont tellement magnifiques.
Exactement.
À l'automne.
On fait pareil, mais eux, ils ont les herbes japonais en pleine nature. Hein, ils ont des forêts d'érable. Je vous conseille un jour, si vous allez au Japon, d'aller à l'automne, au mois de novembre, ça s'appelle le Momiji. Donc toutes les forêts.
Momiji. Il faut qu'on y aille toute saison.
Au
printemps.
Il faut qu'on aille y vivre un an.
Je pense que ça fait partie des solutions.
Ça doit être un peu comme au Canada. Les forêts sont de toutes les couleurs. Et donc ils ont cultivé les érables, les genévriers également.
Genévriers.
Parce que c'est un pays de montagne. Hein, le Japon est très montagneux. Et puis les pins noirs. Les pins noirs et les pins blancs. Donc des arbres de forêt.
Oui, il y a beaucoup de pins, c'est vrai, de ce qu'on peut voir sur les peintures aussi.
Ce sont des
arbres qui sont beaucoup estimés, on peut dire.
Oui. Et donc en France, nous on essaye, en Europe et en France, on essaye aussi d'avoir ces essences-là, où on arrive à avoir des genévriers, des pins. Alors chez nous c'est plutôt le pin sylvestre.
Oui.
Mais on déconseille de prendre des espèces trop exotiques, qui ne sont pas adaptées à nos climats. Donc on peut très bien faire du bonsaï avec des charmes, du cotonnet aster,
oui,
des
hêtres. Réussir, il vaut mieux suivre notre climat finalement, choisir des espèces adaptées à notre climat pour les réussir.
Oui, le bonsaï c'est un arbre, hein, c'est pas une plante d'appartement, donc ça vit dehors.
Oui, ça vit dehors,
même si c'est dans des pots, ça vit dehors. Donc vaut mieux avoir des espèces qui sont assez faciles, comme le charme, le hêtre, mais surtout le charme, les pins, on y arrive.
Bon, en attendant, Gilles, on va faire une pause musicale, on va aller rejoindre les arbres. C'est une des chansons du merveilleux film de Miyazaki, La princesse Mononoke. Et c'est Mononoke Haim.
Thank you.
On était parti loin dans la forêt, là, Didier.
Oui, très très loin, je pense.
Très très loin.
Mais c'est bien agréable.
Mais bon, on retrouve Gilles, c'est pareil.
C'est ça, c'est bien aussi.
On reste avec les arbres. Donc Gilles, répétez un petit peu, redites-nous les espèces qu'on doit favoriser pour commencer sa collection de bonsaï en France, chez nous, là. Vous parliez du charme.
Oui, on conseille nous aux débutants, si on veut des espèces locales,
oui.
Le charme, le pin, des choses comme ça, des
pirates. Le genévrier aussi.
Le genévrier, c'est un peu plus technique.
Un peu plus technique. Hein? Faut commencer donc par le charme, oui, le hêtre, non?
Non, le hêtre aussi, on peut faire le hêtre. Le chêne, c'est un peu compliqué. Le piracanta, vous savez, c'est
oui,
qui ont pique, des petites boules.
Oui.
Ça fait un très beau bonsaï avec ça. Des cotonnets astères également.
D'accord.
Et puis sinon, quand on veut acheter des arbres dans le commerce, on commence souvent comme ça, c'est un petit peu en jardinerie, ou on conseille ce qu'on appelle l'orme de Chine, qui est une variété d'orme de Chine.
Ça fait rêver, ça.
Voilà, et c'est l'arbre du débutant. Ça supporte beaucoup d'erreurs.
Ah ben, c'est bien ça.
Bon, il faut qu'on retienne tout ça,
oui,
Didier.
Oui.
Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Gilles, les principales techniques qu'on utilise pour façonner, entretenir un bonsaï? Comment on le transforme en bonsaï, en fait, cette petite pousse qu'on va acheter?
Ça m'intéresse parce que j'ai dû faire trop d'erreurs, moi, par le passé.
Parce que tu as déjà essayé.
Oui, moi j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. J'avais essayé, mais j'ai dû faire trop d'erreurs, donc je vais écouter attentivement.
Alors tout d'abord, le bonsaï est un arbre.
Oui.
C'est pas une plante, donc ça ne vit pas dans un appartement, sauf quelques espèces tropicales comme les ficus et voilà, qui aiment bien la chaleur. Mais sinon, ça vit dehors, donc il faut au minimum un balcon ou un petit bout d'un terrain.
Ah oui, on doit les garder dehors, en fait.
Oui, oui.
Toute l'année.
Quasiment toute l'année, sauf quand ils gèlent, moins 10, moins 15, ce qui est assez rare dans nos régions maintenant. Sinon, dehors toute l'année.
Oui, donc c'est rustique, on peut
dire. C'est un arbre.
Oui, c'est un arbre.
C'est un arbre qui est dans un pot, mais c'est un arbre. Donc le bonsaï, c'est plus qu'un arbre dans un pot. C'est un arbre dans un pot, mais avec des techniques de pousse et de taille particulières.
D'accord.
Donc ça demande déjà des minimums de connaissances de culture, un petit peu d'horticulture. Donc il faut savoir rempoter régulièrement, il faut savoir arroser, mettre de l'engrais. Sinon, ils crèvent, comme il n'y a pas beaucoup de terre.
Oui, c'est ça.
Pas beaucoup de terreau.
C'est vrai, ils sont très plats, les pots, en fait. Ils sont peu...
Peu épais.
Oui, c'est
peu
pas
épais.
Nos pots horticoles profonds,
non.
C'est beaucoup plus plat.
Voilà, au début, on peut commencer, plus le pot est mince, plus c'est difficile.
Oui, bien sûr.
Au début, plus le pot est grand, plus c'est facile. Surtout qu'on utilise, nous, très peu de terre ou de terreau, parce que comme on arrose beaucoup, ça pourrit.
D'accord.
Donc on utilise des choses très drainantes, comme exemple la pouzzolane.
D'accord.
Ou la pierre ponce.
Ah oui.
Voilà. Et donc, il y a toute une... L'arbre reste petit, parce qu'on le taille, on le met en forme et on le taille plusieurs fois par an à des moments bien privilégiés dans l'année. On le taille régulièrement. Donc ça demande beaucoup de patience parce que l'arbre, il n'a qu'une pousse par an. Dans certaines espèces, on a deux pousses par an. Donc c'est un petit peu l'école...
Ah, il ne faut pas se louper.
C'est l'école de la patience. Et c'est des arbres qui, l'été, certains, dans des petits pots, il faut les arroser une ou deux fois, voire plus par jour.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que ça pose...
Ah oui, ça va être un problème pour moi quand même.
Voilà, il faut qu'on ait des personnes de confiance.
Ou je les emmène au travail.
Voilà, il faut des personnes de confiance pour les arroser. Ou vous mettez un petit goutte à goutte, des choses comme ça.
En fait,
c'est comme quand vous avez un potager.
D'accord.
Si vous avez un potager, vous n'arrosez pas quand il va commencer à faire beau la semaine prochaine. Si vous n'arrosez pas, vos plantes, elles vont dépérir. Mm-hmm. Et bien les bonsaïs, c'est exactement pareil.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des outils particuliers pour les bonsaïs, Gilles? Il faut s'équiper. J'imagine qu'on ne doit pas... Enfin, il faut des outils, non? Un sécateur normal.
Au début, pour commencer le bonsaï, une paire de ciseaux et un petit sécateur suffit.
D'accord.
Parce que les outils à bonsaï, comme beaucoup de choses, ça peut vite commencer à coûter cher. C'est comme quand vous voulez faire de la peinture, par exemple,
Oui.
ou de la musique. Hein, je veux dire,
on ne va pas acheter toute la palette d'un coup, on va être raisonnable.
Voilà, si ça plaît, mais une paire de ciseaux et un petit sécateur suffit pour les premières choses.
D'accord. Et pour les arroser?
Pour les arroser, de l'eau de pluie si on en a, mais sinon...
de l'eau de pluie.
De l'eau de pluie, on n'en a pas manqué, on devrait avoir des réserves.
Sinon, l'eau du robinet, c'est pas à peine.
D'accord, donc là, il n'y a pas de précaution particulière.
Sauf si on a une eau vraiment très chlorée, mais sinon, l'eau potable suffit largement.
Alors, parlez-nous des pots, des bonsaïs, justement. On parlait des pots qui étaient minces, pas très hauts. Il y en a qui sont très évasés, enfin, je ne sais pas comment dire, très larges et très peu hauts.
Oui, on dirait des plats. Si j'osais pour être imagé.
Oui.
Alors, en fait, c'est là où interviennent les codifications japonaises.
D'accord.
Il y a des pots chinois aussi, mais les japonais ont poussé assez loin l'esthétique.
D'accord.
Le bonsaï, c'est à la fois de l'horticulture, de la culture et de l'esthétique. Et donc, oui. Il y a des codes. Les Japonais ont codifié les arbres avec des styles. Il y a entre 10 et 20 styles codifiés à peu près. Enfin, on peut mélanger les styles.
De taille d'arbre,
de
donc.
De taille. Alors, on peut commencer de 15 cm jusqu'à 1,20 m à peu près.
Ah, d'accord. Jusqu'à 1,20 m, on considère que c'est encore un bonsaï. Ah.
Ouais. On appelle souvent l'arbre qu'on peut mettre dans une main.
Oui.
Ou un arbre à quatre mains. C'est-à-dire qu'il faut deux pour porter le pot. Et là, on commence déjà à être dans des grands arbres de 1,20 m. Mais au-delà, c'est assez rare.
D'accord.
Sauf les Chinois, eux, par contre, ont des arbres qui font des fois 2-3 mètres de haut, beaucoup plus grands. Ils ont des styles beaucoup plus libres que nous, que les Japonais. Et l'histoire des pots, il y a un rapport entre la taille du pot et la taille de l'arbre. Pour faire simple, souvent, la hauteur du pot doit faire la taille du collet, ce qu'on appelle, nous, le nébari. Donc, il y a un rapport entre la taille de l'arbre, la largeur du pot, la longueur du pot, la hauteur de l'arbre et l'épaisseur.
D'accord.
Et en plus, il y a des codifications japonaises en fonction des pots qui sont vernissés ou des pots mats selon le type d'espèce. Si c'est un conifère, on prend un pot mat. Si c'est un feuillu, on prend un pot vernissé.
Ah oui, donc il y a vraiment des codes.
Oui, je suis surpris encore une fois. Ouais. C'est japonais, hein.
C'est japonais.
Enfin, si on veut aller faire des expositions, et sinon dans un arbre
oui,
normal, ça
c'est plaisir.
Ça.
Mais
alors Gilles, c'est vraiment très passionnant. Faudra revenir à la saison prochaine d'Asialogie.
Avec
où
plaisir.
Est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on, où, en fait, où est-ce que vous exercez votre art de
où est-ce
de,
qu'on pourrait
de
voir
bonsaï,
des bonsaïs
où est-ce qu'on
alors,
peut vous rencontrer, dites-nous.
Alors nous avons fait une exposition à Changer. Nous sommes à Changer en fait.
Vous êtes à Changer.
D'accord. Nous sommes une association de 40 membres.
Alors ça s'appelle comment?
Ça s'appelle les Amis du Bonsaï.
Les Amis du Bonsaï. A changé
et on se réunit, on travaille nos arbres une fois par mois, un samedi toute la journée. Pour nous joindre, c'est très facile, vous tapez Changer Bonsaï ou Le Mans Bonsaï et on est référencé.
Et on peut vous rendre visite.
Et on a un site internet où il y a toutes les tout ce qu'il faut et les contacts, les adresses mail et les contacts.
Votre numéro de téléphone donc.
Oui, il y a le numéro de l'association et puis les jours.
Oui, il y a toutes les informations.
Les jours où on peut venir, même quelqu'un qui a un bonsaï, même sans être adhérent, vient nous voir, vient amène son arbre et on l'aide à le tailler, on lui donne des conseils. Voilà.
Il y a un jour particulier, vous dites ?
Non, ça change souvent.
Ça change,
en fonction des qualités des salles, parce que c'est la.
Il faut aller sur votre site et vous appeler, en fait, c'est plus simple.
Voilà, mais c'est souvent le
Gilles, samedi. Gilles, on est désolé, de toute façon, on trouve toujours qu'Asialogie, c'est trop court. L'année prochaine, vous reviendrez nous voir.
Ouais, voilà.
Donc, merci pour tout ce que vous nous avez expliqué. Et puis, on va rester un petit peu dans la nature avec Kokia. C'était la merveilleuse Kokia avec sa chanson Battle of Destiny. On va changer de registre. Hein. Gilles a émerveillé avec ses bonsaïs.
On va rester un peu dans le végétal quand même.
Oui, on va rester dans le végétal, dans la nature. Avec les gouttes de Dieu, Didier, tu vas nous
tout
émerveiller aussi. On en
a
besoin
essayer,
en ce moment de s'émerveiller.
Oui, mais là, c'est il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Plus que jamais, nous allons avoir besoin de nous faire du bien, comme tu viens de nous dire, et nous ressourcer. Alors, je vous emmène en voyage pour boire un verre. Ça devrait aller.
Ça,
hein,
c'est sympa comme idée.
Et même plusieurs avec un héros d'une série sortie en mai sur France TV. Peut-être que certains l'auront vu, mais avant, d'abord, quelques mots sur le célèbre manga Les Gouttes de Dieu, sorti en France de 2008 à 2020 aux éditions Glénat. 44 volumes quand même, ils sont toujours disponibles, en neuf ou occasion, hein, bien sûr. Cette collection a été vendue à 15 millions d'exemplaires dans le monde.
Énorme.
Tout de même,
hein,
tout de même. En plus de contenir une histoire captivante, c'est une véritable encyclopédie sur le vin. Une vraie mine d'or pour découvrir la richesse du patrimoine viticole français et mondial, pour apprendre à déguster le vin, pour savoir le décrire. Ce manga a été récompensé, hein. Notamment il y a 13 ans, par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui a décerné le prix du mérite agricole à Shin Kiyabashi et sa sœur Yuko Kiyabashi, les scénaristes connus sous le pseudonyme de Tadashi Agi.
Oui, en fait, ils sont deux derrière un seul pseudonyme.
C'est à quatre mains. Et il a été élu en 2012 meilleur livre sur le vin de la revue, par la revue des vins de France.
Oui, quand même. Alors, de quoi parle ce manga, Didier ? Alors, si on n'est pas spécialement passionné par le vin, c'est peut-être fastidieux à lire, non ?
Non, pas du tout.
Non,
enfin,
pas du tout.
Je ne trouve pas, non, non. Alors, après, moi, j'aime bien. Donc, mais non, non, je pense que ça peut plaire à tout public. C'est ce qui a fait son succès, d'ailleurs. L'histoire est simple, mais pleine de rebondissements. Bon, je ne vais pas spoiler, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont pouvoir encore voir ou lire le manga, mais quand même, vous faire un petit résumé. Deux frères, un biologiste et un autre spirituel vont s'affronter après la mort de leur père. Tous deux vont partir dans une quête à la recherche des 12 apôtres, les gouttes de Dieu. Les 12 apôtres, ce sont des vins prestigieux du monde entier qui racontent la nature et la vie. L'héritage du père, ce sont des milliers de bouteilles de vin rares, et l'héritage incroyable reviendra à celui qui découvrira les gouttes de Dieu, un breuvage mystérieux et quasi divin. Son fils légitime, Shizuku, est le nez et le goût pour suivre ses traces, mais il ne connaît rien au vin pour l'héritier. Il devra se confronter à son frère, enfin pour hériter, pardon, un jeune œnologue adopté par son père une semaine avant sa mort.
Ouais, c'est pas de chance, ça.
Non, c'est juste une semaine, quand même. C'est ballot. Hein.
Uh-huh. Ouais. Alors, est-ce que les vignobles et les vins cités dans le manga existent, Didier ?
Oui, j'ai même pu le vérifier par moi-même. J'ai découvert les gouttes de Dieu comme ça, dans une cave, avec un manga sur le côté, et ça m'avait étonné. Et dans le manga, sont cités 720 de tous les pays au fil des 439 épisodes. Les scénaristes ont goûté tous les vins pour les traduire en mots et en dessin avec la dessinatrice Chu Okimoto. Cela peut paraître répétitif, mais ce manga permet de découvrir les meilleurs vins jamais conçus.
Oui, c'est incroyable.
Oui, oui, en rassemblant les meilleurs vins du monde de 10 à 10 000 euros tout de même, il permet vraiment de créer sa cave idéale, car les vins cités existent et en plus l'histoire des deux frères nous embarque, hein, littéralement. Pour info, le vin le plus prestigieux et le plus cher du monde dont il est raconté l'histoire dans le manga, c'est un Bourgogne, un Romanée Conti. Une de ces bouteilles s'est vendue aux enchères à 485 000 euros.
Wow.
En 2018,
oui,
à New York. J'avais évincé un zéro, je ne sais pas, je devais avoir du mal.
Bah, oui, mais même avec un zéro
à
en
New
moins,
York,
c'est toujours
et c'était
énorme.
La cuvée 1945, madame. Ce manga a été très bénéfique au vignoble, cité
oui,
tout vin
confondu.
Oui,
ça leur a rendu service.
Ah, oui, oui.
Alors, est-ce que la série est fidèle au manga, Didier ?
Alors, elle est sortie d'abord, donc elle est fidèle, mais elle a été adaptée. Elle est sortie donc sur France TV en mai. Il y a 8 épisodes de 52 minutes. C'est une production franco-japonaise librement inspirée du manga.
D'accord.
En plus de l'idée géniale et originale de la chasse des gouttes de Dieu qui ont créé l'enjeu et la dramatique, la série illustre aussi ce qui nous différencie dans notre façon d'être, de penser en Europe et au Japon, puisque l'histoire a été délocalisée en partie du Japon vers la France.
Oui, c'est intéressant comme
voilà.
idée.
Donc le manga, dans le manga, les deux héros sont des hommes japonais. Dans la série, les créateurs ont pris une autre liberté, puisque ce sera différent. D'abord à travers les yeux d'une héroïne, que l'on va découvrir l'univers du vin resté très masculin, y introduit une femme, rend donc l'environnement encore plus menaçant et doit prouver qu'elle est à la hauteur des attentes de son père.
Alors c'est donc une histoire différente du manga.
Oui, c'est différent, mais c'est intelligemment adapté, j'ai trouvé.
Oui, donc la série va s'attarder plus sur les personnages, c'est ça ?
Oui, on peut dire que ce récit, c'est un drame familial, un thriller psychologique, un film à énigmes qui respecte le message du manga. Les auteurs de l'œuvre originale, Tadashi Agi et Tsuko Yokimoto, ont validé le nouveau scénario que je vais vous dire en quelques mots. Voilà. On y suit en effet la quête de Camille, jouée par Fleur Greffier. Camille est une jeune romancière un peu désœuvrée et fâchée avec son père depuis de longues années. Elle s'envolera pour le Japon où son père vient de mourir. Pour hériter de son inestimable collection de grands crus, elle devra remporter la compétition en 3 épreuves au lieu des 12 du manga.
Et Didier, est-ce que le temps passe, tu sais?
Oui.
Est-ce qu'il y aura une deuxième saison?
Alors, a priori oui, mais la première saison se suffit à elle-même, s'il y en a qui veulent regarder. Selon le communiqué, Camille et Issei devront cette fois découvrir l'origine du plus merveilleux vin du monde, un secret que même leur père n'a pas réussi à percer. Donc c'est quand même pas mal ça.
Oui, mais c'est très bien. Toutes les personnes qui ont vu la série l'ont adoré.
Alors moi-même, j'étais sceptique vraiment. Et j'ai bien aimé, finalement.
Bon, très bien. Hein? Asialogie, c'est fini Didier, merci à Gilles. On se retrouve la semaine prochaine,
oui.
Merci de visiter notre page Facebook, on attend vos avis et vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine, salut.
À la semaine prochaine. お客様のご